D'accord, décortiquons un peu tout ça. Je suis vraiment ravie de démarrer cette nouvelle exploration aujourd'hui, parce qu'on s'attaque à un morceau de choix.
Salut Ève, oui je suis prêt aussi, et c'est vrai qu'on a du pain sur la planche avec les sources du jour.
Exactement. Notre mission, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est d'analyser la session 18 des enseignements du docteur John Walton sur le livre de Job. Donc on se concentre sur les chapitres 29 à 31.
C'est ça. Et ce qui est génial avec les notes de Walton, c'est qu'il prend ce texte ancien, qui peut paraître un peu sec, et il nous montre comment ça se transforme en un véritable drame juridique palpitant.
Un vrai thriller légal, ouais. Et je pense qu'il faut d'emblée casser une idée reçue. Tu sais, on a tous en tête ce mythe du patient Job. On l'imagine assis sur son tas de fumier, totalement passif, qui accepte son sort avec résignation.
Oh bah, c'est l'image d'Épinal classique, hein. Mais c'est une aberration textuelle. Walton montre bien que dans cette section, Job est tout sauf résigné. Il est hyper combatif.
Il se laisse pas faire du tout.
Pas du tout. Il se promène en ville, il affronte le regard des autres, il est ostracisé par sa communauté certes, mais il élabore une stratégie complexe, une vraie manœuvre de défense.
Et c'est justement là-dessus qu'on va se concentrer. On va pas juste résumer des chapitres. L'objectif de notre plongée, c'est vraiment d'observer cet homme acculé qui tente de tendre un piège juridique absolu au divin.
C'est exactement ça le cœur de l'intrigue. Mais pour comprendre ce piège, il faut d'abord saisir l'état psychologique dans lequel il se trouve.
La transition brutale, quoi. Comment il passe d'une vie littéralement parfaite à un rejet total.
Voilà. Et d'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet de ses discours, il y a un truc fascinant que Walton souligne. C'est un trompe-l'œil structurel.
Un trompe-l'œil ?
Oui.
C'est-à-dire ?
Mais quand on regarde les discours finaux, c'est très asymétrique. Job fait 3 discours. Ensuite, t'as un personnage, Eliou, qui en fait 4 d'affilée. Et finalement, Yahweh, Dieu, intervient 2 fois.
D'accord, donc visuellement, sur la page, on a l'impression qu'Eliou est la star de la fin du livre.
Exactement. Ce volume de texte donne l'illusion qu'Eliou détient la clé de tout le débat théologique. Mais Walton explique que c'est une fausse piste totale. L'attention doit absolument rester focalisée sur la conclusion implacable de Job.
C'est lui qui pose l'ultimatum.
C'est lui. Tout le reste gravite autour de ce qu'il va déclarer.
Et pour bien mesurer le poids de cette déclaration, il faut regarder le chapitre 29. C'est là que Job décrit son passé. C'était vraiment la belle époque pour lui.
Le bon vieux temps, comme on dit.
Ouais. Et c'est important de rappeler que le principe de rétribution de l'époque fonctionnait à merveille pour lui. Job craignait Dieu, il vivait de manière irréprochable et en retour, tout allait bien.
La fameuse équation cosmique. Tu fais le bien, tu reçois le bien.
Voilà. Il était, pour reprendre les termes de Walton, un campeur heureux. Le monde avait du sens, la justice divine était une réalité de tous les jours, ses affaires marchaient, sa famille allait bien, il était respecté.
Sauf qu'au chapitre 30, bah, c'est le contraste brutal, l'effondrement de ce paradigme, l'incohérence absolue de son présent.
Et c'est pas juste qu'il a perdu son argent.
Bon, c'est bien pire. La souffrance physique, à la limite, c'est secondaire. Ce qu'il décrit longuement, c'est son rejet. Et il n'est pas isolé hors du monde, sur son fumier, comme on le disait. Il est en ville.
Au milieu des autres.
Oui, au milieu de ceux qui le vénéraient autrefois. Et là, il est méprisé, rejeté par tous, même par les plus jeunes qui se moquent de lui. Dans l'Antiquité, c'est une mort sociale dévastatrice.
C'est fou parce que si on devait faire une analogie pour notre auditoire, c'est un peu comme subir un licenciement brutal.
Ouais, totalement immérité.
Immérité sans aucune explication. Du jour au lendemain, tu perds tes actifs, ta boîte. Mais en plus, et c'est là que ça devient viscéral, tous tes anciens collègues, tes amis, tout ton réseau professionnel décide de faire comme si tu n'existais plus.
Le silence radio complet.
Pire, ils te regardent avec dégoût. C'est une véritable annulation sociale. La cancel culture avant l'heure. Le simple fait de croiser le regard de quelqu'un dans la rue devient une humiliation.
C'est une excellente image. C'est exactement cette douleur sociale qui est le moteur de la révolte de Job. Et face à cette chute vertigineuse, son entourage lui propose une solution de facilité.
Ah oui, les fameux amis. Et si on relit ça au contexte du Proche-Orient ancien, c'est ce que Walton appelle la grande symbiose, non ?
Absolument. C'est la vision cosmique dominante de l'époque. Selon cette vision transactionnelle, les dieux ont des besoins. Si tu souffres, c'est que la divinité est en colère. Donc, que fais-tu ?
Tu payes l'amende.
Exactement. Tu apaises le dieu. Tu fais des sacrifices. Tu te repens même si tu sais pas ce que t'as fait de mal. Et en échange, L'ordre est rétabli.
Tu retrouves ton bétail, ta maison. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que c'est hyper tentant de juste céder, non? Pour arrêter le cauchemar.
N'importe qui d'autre aurait signé le chèque et fait le sacrifice pour avoir la paix. Mais Job rejette cette idée avec une force incroyable.
Pourquoi? Quitte à s'isoler encore plus?
Parce que c'est une question de motivation profonde. S'il suivait ce conseil, s'il apaisait Dieu juste pour retrouver ses biens, ça prouverait quoi?
Ça prouverait que sa droiture était intéressée depuis le début, qu'il était un homme bien juste pour obtenir des récompenses. C'est le fameux débat sur la justice désintéressée.
T'as tout compris. Job prouve ici que sa droiture compte bien plus que ses troupeaux ou son compte en banque. Il veut pas retrouver son argent, il veut retrouver son statut d'homme juste. Il veut être publiquement innocenté.
D'accord, c'est super noble de sa part. Mais en lisant les notes, on voit aussi qu'il y a un revers à la médaille. C'est un pivot assez dangereux qu'il opère, non?
Très dangereux. Dans cette quête désespérée de cohérence personnelle, Job va beaucoup trop loin. Wollstone utilise une image très parlante. Il dit que Job construit un fort dans son propre coin.
Un fort de droiture?
Oui. Et le problème, quand on s'enferme dans ce genre de forteresse, c'est que, à ses yeux, sa propre droiture devient plus importante que la réputation de Dieu.
Attends, pause. T'es en train de dire que Job préfère déclarer que Dieu a tort, que Dieu gère mal l'univers, juste pour prouver que lui, Job, a raison.
C'est exactement la logique implacable de son raisonnement. Il sait qu'il est innocent. Le dogme dit que Dieu punit les coupables. Donc si Job est innocent et puni, alors c'est la politique de Dieu qui est défaillante.
Mais c'est le comble de l'orgueil pour quelqu'un de prétendument juste, non? Démanteler le tribunal cosmique juste pour son propre dossier?
Ça ressemble à de l'hubris, c'est vrai. Mais c'est surtout du désespoir. Il est tellement convaincu de son bon droit, et Dieu refuse de lui répondre. Il n'a plus d'autre choix.
Ce silence de Dieu le rend fou. Il réclame un avocat, un médiateur, mais rien, juste le silence.
Et dans l'Antiquité, le silence divin, c'est pas juste une absence de communication. C'est perçu comme une punition prolongée, une présomption de culpabilité continue.
C'est terrible. Mais Job va utiliser cette seule chose qui lui reste, ce silence assourdissant, et le retourner contre Dieu, au chapitre 31. C'est la fameuse stratégie de manipulation.
Le serment d'innocence. C'est un chef-d'œuvre légal.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi exactement ce serment?
Job énumère une liste extrêmement détaillée de crimes potentiels. Il couvre tout. L'éthique sexuelle, les pratiques commerciales, et même, chose incroyable pour l'époque, il dit qu'il a traité ses esclaves avec justice parce qu'ils ont été créés dans le ventre maternel par le même Dieu que lui.
C'est hyper moderne pour l'époque.
Vraiment. Il liste tout ça et pour chaque point, il jure de ne pas l'avoir commis. Mais la vraie mécanique du piège, c'est la condition qu'il y attache.
Le fameux « si ». Si j'ai fait ces choses, que Dieu me frappe de mort. C'est une automalédiction.
Exactement. Dans le droit du Proche-Orient ancien, ce genre de document lie les deux parties de manière contraignante.
En lisant ça, j'ai tout de suite pensé à une analogie moderne. C'est exactement comme le piège de l'accusé de réception d'un message email, le fameux read receipt.
Ah oui? Comment ça?
J'ai marqué « lu ». Si Dieu le frappe de mort sur le champ, ça veut dire que Job a menti et qu'il est coupable.
D'accord.
Mais si Dieu reste silencieux, comme il l'a été depuis le début du livre, boum! Le mutisme se retourne contre lui. Le silence équivaut désormais légalement à une disculpation. Job n'aura peut-être pas récupéré ses richesses, mais aux yeux de la jurisprudence cosmique, il a récupéré son honneur. Le silence de Dieu vaut acquittement.
C'est brillant. C'est de l'extorsion procédurale pure et simple. Job tente de forcer la main de Dieu. Soit Dieu le tue, soit le silence de Dieu l'innocente publiquement.
C'est un coup de maître sur le plan rhétorique.
Oui, mais cela soulève une question cruciale. À quel prix? Si Job gagne ce petit jeu, s'il parvient à piéger Dieu avec ce vice de procédure, que reste-t-il de l'ordre moral de l'univers?
Ça sent le roussi pour les fondations du cosmos.
Totalement. Walton fait un lien fascinant avec le chapitre 3. Au tout début de sa maîtresse, Job se plaignait d'être traité par Dieu comme un monstre du chaos, tu sais, comme le Léviathan qu'il faut museler et harceler.
Oui, il disait « Pourquoi tu t'acharnes sur moi? Je suis pas un monstre marin. »
Voilà. Mais ironiquement, avec ce serment d'innocence inattaquable, c'est Job qui opère une inversion des rôles. Il accule le divin et il réduit Dieu à l'état de créature du chaos.
Attends, Dieu devient le monstre du chaos. Comment ça?
Si la stratégie de Job fonctionne, il prouve irréfutablement que sa souffrance extrême n'est liée à aucune faute de sa part.
Donc il souffre pour rien.
Exactement. Ce qui signifie que Dieu, qui gère l'univers, agit de manière totalement irrationnelle. Il devient un être d'une puissance écrasante, brute, mais complètement dénué de sagesse, de justice ou de raison. La définition même du monstre du chaos dans l'Antiquité.
Oh waouh ! Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Si Job a raison, les politiques de Dieu permettent aux innocents de se faire broyer aléatoirement.
C'est pire que tout. C'est la destruction complète des politiques divines. Tu te souviens de la solution des amis ? La grande symbiose ?
Oui, l'univers transactionnel où on paye pour apaiser Dieu.
Eh bien, cette vision des amis, même si elle était réductrice et mesquine, elle laissait au moins à Dieu le statut de divinité. Une divinité qu'on peut acheter, certes, mais qui répond à des règles.
Alors que la stratégie de Job...
La stratégie de Job fait bien pire. Elle démontre que si Dieu agit ainsi, il n'est finalement, je cite, « pas un Dieu du tout ». Il perd sa légitimité morale.
C'est le chaos absolu. C'est un univers aveugle, comme une force de la nature, un séisme ou une tornade qui frappe au hasard.
C'est pour ça que la réputation en jeu à ce stade du livre, ce n'est plus du tout celle de Job. On s'en fiche presque de ses motivations à lui. C'est la réputation de Dieu tout entier qui est sur le banc des accusés.
Le renversement est d'une puissance incroyable.
Et le pire, c'est que l'accusation de Job menace de faire des dégâts cosmiques infiniment supérieurs à ce que le Challenger, l'adversaire du chapitre 1, avait fait. L'adversaire voulait juste prouver que l'humain était intéressé. Job, lui, est en train de prouver que le créateur est incompétent.
C'est fascinant de voir jusqu'où un individu est prêt à aller pour préserver son propre sentiment de justice. Il est littéralement prêt à démanteler l'univers entier, à condamner Dieu, juste pour s'assurer que le calcul final valide son expérience personnelle.
C'est un mécanisme de survie intellectuelle poussé à son paroxysme. Et je trouve que ça nous connecte directement à une réalité profondément humaine.
C'est-à-dire ?
Eh bien, face à l'injustice flagrante, ou face au silence, que ce soit le silence des institutions, de la société, ou même d'une puissance supérieure, on a tous cette tentation. La tentation de construire un fort dans son propre coin.
On érige des murs autour de nos convictions.
Absolument. Plutôt que d'accepter qu'il y a un mystère insondable qu'on ne comprend pas, on préfère souvent se convaincre que le monde entier a tort, que tout est chaos et absurdité, du moment qu'on peut se dire « j'avais raison depuis le début ».
C'est fou parce que, d'un côté, on admire Job. Il refuse la corruption morale. Il refuse d'apaiser en Dieu pour récupérer du matériel hypocritement.
Oui, il est intègre.
Mais de l'autre côté, en glissant vers cet autre extrême, il devient cet avocat manipulateur, froid, prêt à détruire la réputation du divin pour sauver sa propre intégrité sociale. Il y a un orgueil terrible là-dedans.
C'est toute l'ambiguïté du personnage dans cette dernière ligne droite avant que la tempête divine ne réponde enfin. Il est coincé entre son besoin de clarté légale et l'angoisse de l'inconnu.
Ça donne vraiment à réfléchir. Et pour clore cette analyse, ça m'amène à une pensée assez provocatrice que j'aimerais partager avec quiconque nous écoute pour aller un peu plus loin.
Je t'écoute.
Si on regarde bien l'erreur tragique de Job, c'est d'exiger que l'univers se soumette à des règles juridiques strictement humaines. Il veut des contrats, des causes à effet clairs, un tribunal. Mais si nous faisons pareil, si nous exigeons que le divin, ou même la complexité de l'existence, réponde par oui ou par non à nos ultimatums procéduraux, ne risquons-nous pas de détruire précisément l'espace nécessaire à la grâce ?
Ouf, c'est profond.
N'est-ce pas le mystère même qui rend la réalité plus riche qu'une simple salle d'audience de tribunal civil ? À force de vouloir un verdict immédiat, on passe peut-être à côté de quelque chose de beaucoup plus grand.
C'est une excellente réflexion. On veut enfermer l'incompréhensible dans un contrat juridique.
Exactement. Et sur ces mots, je crois qu'on a de quoi méditer longuement. Merci d'avoir décortiqué cette stratégie juridique avec moi aujourd'hui. C'était passionnant.
Avec grand plaisir. L'exploration valait le détour.
À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les textes.